bel après-midi.
Bonjour, comment expliquer l'attaque du marché de Noël de Magdebourg en Allemagne? Les motivations de l'auteur présumé restent floues, son profil interroge. La question sécuritaire s'invite en une dans une Allemagne en pleine campagne électorale. On rejoindra notre correspondante. Le ski suisse sur les podiums, celui de Val Gardena peut-être chez les hommes. La course a lieu en ce moment et c'est plutôt bien parti. Et puis un podium à Saint-Moritz, la deuxième place de Laragout. Mais les projecteurs étaient aussi sur l'américaine Lindsey Vonn, de retour 6 ans après sa dernière course. L'américaine skie avec une prothèse partielle du genou droit. Est-ce un pari risqué? On entendra l'avis d'un chirurgien. La Suisse et l'Union européenne. L'accord annoncé hier fait les gros titres dans notre pays, mais qu'en disent les médias européens? Revue de presse dans ce 12-30. Une semaine après le passage du cyclone Chido, Mayotte est toujours plongée dans le chaos. Certains Suisses sont sur place et pas simple de quitter la région. On entendra leur témoignage. Comment économiser alors que notre pouvoir d'achat n'a cessé de baisser ces deux dernières années? C'est la question que pose Le Point J cette semaine. Rendez-vous dans une quinzaine de minutes. Météo, temps mitigé ce week-end. Quelques éclaircies aujourd'hui, plus gris demain. Bienvenue dans 12-30, on est ensemble pour la prochaine demi-heure. L'émotion et les questions en Allemagne après l'attentat à la voiture Bélier d'hier soir dans un marché de Noël à Magdebourg. Le dernier bilan officiel évoque désormais 5 morts. L'auteur présumé a été arrêté. Il est d'origine saoudienne, mais ses motivations restent floues. Blandy Milson, on vous retrouve en direct. Alors, est-ce qu'on en sait plus ce matin? Est-ce que l'enquête a avancé?
Oui, on en sait un peu plus sur l'auteur de cet attentat, dont on peut se demander s'il s'agit d'un extrémiste ou d'un déséquilibré. Il s'agit donc effectivement d'un médecin psychiatre de 50 ans, originaire d'Arabie Saoudite, arrivé en Allemagne en 2006 et qui travaillait dans une clinique proche de Magdebourg. Il n'était pas connu comme islamiste, au contraire, il se présentait sur les réseaux sociaux comme très critique à l'égard de l'islam. Il disait avoir créé une association pour aider les Saoudiennes à échapper aux menaces de l'islam et il a posté de nombreux contenus proches des thèses du parti d'extrême droite allemand, l'AFD, donc un activiste anti-islam qui accusait même l'Allemagne de vouloir islamiser l'Europe, qui a exprimé aussi sa sympathie pour le milliardaire Elon Musk. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment quelles étaient ses motivations. Le quotidien Bild affirme qu'il était sous l'emprise de drogue, mais la police locale a précisé qu'il était pour l'instant impossible de catégoriser ce qui s'est passé sur ce marché de Noël.
Alors le chancelier Olaf Scholz est présent ce matin sur place. Cette actualité va forcément s'inviter dans la campagne électorale en cours en Allemagne?
Oui, absolument. Olaf Scholz est donc arrivé à Magdebourg en fin de matinée. Il a appelé le pays à se rassembler, à ne pas céder à la haine et à la division. De fait, toute la classe politique allemande a réagi dès hier soir pour exprimer sa colère, son émotion, d'autant que l'Allemagne a connu ces dernières années plusieurs attentats, notamment sur le marché de Noël à Berlin en 2016, un attentat qui avait fait 13 morts au total. On se demande aujourd'hui comment cela a pu se répéter au vu des mesures de sécurisation qui avaient été prises depuis sur tous les marchés de Noël en Allemagne. Et même s'il s'agit cette fois de l'acte d'un musulman anti-islam, le sujet de la sécurité va certainement s'inviter dans la campagne électorale pour les élections du 23 février prochain.
Vos explications, Blandine Milson, merci. L'actualité du jour, c'est aussi du ski alpin avec des Suisses aux avant-postes. On le verra dans un instant avec Laragout chez les dames. Mais place d'abord à la course qui se dispute en ce moment. Une descente, messieurs, à Val Gardena en Italie. Alain Thévaux, vous la suivez pour nous avec un homme attendu, Marco Odermatt, et il répond présent.
Oui, il répond présent, même si à Val Gardena, il faut se montrer prudent avec le soleil qui brille, la piste qui devient plus rapide. Et d'ailleurs, en piste, avec les deux Sarventes, le grison Stéphane Roggentin, il avait le meilleur temps tout à l'heure, 12 centièmes de retard à mi-parcours. Mais pour l'heure, c'est un doublé suisse, Marco Odermatt, le meilleur temps, 45 centièmes d'avance sur le Bernois Franjo von Almen et l'Américain Ryan Cochrane Siegel est troisième à 46 centièmes, mais surtout Odermatt qui a connu un très bon passage sur les bosses du chameau et surtout dans le chasselat où il a quasiment repris 80 centièmes. C'est vraiment très serré, 9 centièmes de retard pour Roggentin qui vont terminer dans une vingtaine de secondes. Mais en tout cas, les Suisses aux avant-postes. On rappelle qu'Odermatt a jamais gagné ici, 2 podiums. Il cherche un premier succès dans dans les Dolomites. La fin du parcours pour Stéphane Roggentin. Il était en retard 67 centièmes. Le temps final, il revient, mais il est septième quand même. Donc pour l'heure, toujours un doublé suisse. Odermatt devant Van Almen.
Alain Thévaux en direct, merci. Edvald Gardena, on passe à Saint-Moritz dans les Grisons avec un super jet d'âme. Ce matin, une course marquée par le retour à la compétition d'une certaine Lindsey Vonn après 6 ans d'arrêt. Mais on relèvera pour commencer la deuxième place de Laragout, Patrick Deletro.
Oui, Laragout Berami qui a effectué une seule faute à l'entrée du plat qui l'a empêché de remporter cette course. Elle termine avec 18 centièmes de retard sur l'Autrichienne Cornelia Uter. Mais Laragout Berami était satisfaite de sa course aujourd'hui. Troisième, l'Italienne Sofia Goggia à 33 centièmes. À noter aussi le dixième rang de Corinne Souter à 80 centièmes. Elle qui revient aussi de blessure. Et puis elle faisait sa première course de Coupe du Monde. Mallory Blanc, malheureusement, a manqué une porte. Et vous l'avez dit, le retour de Lindsey Vonn, l'américaine. On ne savait pas si elle allait pouvoir réaliser quelque chose aujourd'hui. Lindsey Vonn a 40 ans. Elle avait fait des bons temps en tant qu'ouvreuse à Beaver Creek. Et là, elle termine 14e à 1 seconde 18. Elle prouve donc qu'elle a fait le nécessaire pour revenir en Coupe du Monde. Tout à l'heure, elle nous disait à l'interview que pour elle, c'était son état naturel que d'être au départ d'une course de Coupe du Monde.
Merci Patrick Deletro. Et le retour de Lindsey Vonn de Sar 31 ce matin était bien sûr l'attraction à Saint-Moritz. L'américaine de 40 ans avait dit stop il y a 6 ans. Elle revient avec une prothèse partielle au genou droit. Alors pourra-t-elle se mêler au meilleur et prend-elle un risque pour sa santé? On va y répondre avec vous, Olivier Sigrist. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien orthopédiste. Vous avez opéré les genoux de plusieurs skieuses et skieurs, notamment Laragout. Lindsey Vonn, alors c'est une compétitrice. Elle ne revient pas, on l'imagine, pour faire de la figuration. Aujourd'hui, elle marque des points, même si elle n'est pas tout devant. Est-ce qu'elle peut encore gagner avec ce genou?
Alors, à voir le résultat qu'elle fait aujourd'hui sur une piste qui lui conviendrait encore mieux, en glisse notamment, elle pourrait très bien être tout devant. Et après avoir discuté avec d'anciens entraîneurs de l'équipe qui sont des amis à moi, tous sont assez stupéfaits par le résultat qu'elle fait aujourd'hui.
On évoque le retour de Lindsey Vonn à la compétition avec une prothèse partielle au genou droite. Skier à plus de 100 km/h avec une telle prothèse, est-ce qu'elle prend un risque pour sa santé, notamment en cas de chute?
Oui, en effet, une prothèse, c'est une prothèse de genou, une prothèse, c'est cimenté, c'est un joint entre l'os et l'élément prothétique qui n'est pas solide à toute épreuve. Alors c'est sûr que si on augmente les chocs, les pressions axiales, les mécanismes en torsion, on risque de desceller la prothèse. Une prothèse descellée, ça fait mal, ça ne fonctionne pas, il faut la changer, c'est compliqué. Mais fonctionnellement, notamment une prothèse unicompartimentale, on sait qu'on retrouve un joue pratiquement normal. La preuve, aujourd'hui, on a une revenante dans le ski à un très bon niveau.
Des sportifs ou sportives avec une prothèse, ça reste malgré tout relativement rare. On se souvient peut-être d'Andy Murray en tennis avec une prothèse à la hanche. Est-ce que ça pourrait devenir plus fréquent avec les progrès de la médecine?
Oui, c'est-à-dire que le sport de compétition, dans le sport de compétition, c'est relativement rare d'avoir besoin d'une prothèse. Il y a des exceptions. Au fond, là, Andy Murray ou Lindsey Vonn, ce sont des exceptions. La plupart des athlètes qui arrivent à un stade de dégradation de leur articulation arrêtent le ski. Et il y a des exceptions. Ce sont ces deux sportifs-là. Et la prothèse, elle est utile pour le sport loisir. Ça, c'est sûr qu'on a fait des progrès. Il y a 40 ans, quand on mettait les premières prothèses de genoux, on disait aux gens, ne faites pas de sport. Et maintenant, il y a des centaines et des centaines de personnes qui skient sur nos pistes avec une prothèse de hanche ou une prothèse de genou.
Ça veut dire que c'est pas un problème, c'est pas dangereux de le faire.
Oui, il y a un risque. Encore une fois, le décellement, le ski c'est comme un sport à risque, donc il y a des chocs plus importants dans la marche ou la bicyclette. Donc il y a un risque de décellement et un risque de changement et un risque d'avoir un moins bon résultat. Et on a un autre risque, c'est si on se casse le tibia ou le fémur où est implantée la prothèse, la réparation d'une fracture associée à une prothèse implantée au préalable, c'est un challenge chirurgical beaucoup plus difficile. Donc il y a quand même un risque, mais on observe qu'on arrive à restituer une fonction très favorable et qui permet aux gens de reprendre un sport comme le ski.
Olivier Sigrist, chirurgien orthopédiste, merci d'être venu un instant dans ce 12-30 pour analyser ce retour donc de Lynn Zeebon. Une bonne suite de journée à vous.
Merci.
Vous l'avez peut-être observé en ouvrant vos journaux ce matin, l'accord entre la Suisse et l'Union européenne fait les gros titres. Mais qu'en pensent les autres pays européens? Sandra Zimmerli, vous avez parcouru les sites de plusieurs médias étrangers. On commence par l'Allemagne, le pays d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne.
Oui, le pays d'Ursula von der Leyen est aussi le plus proche de la Suisse alémanique. Alors la poignée de main entre Viola Merz et la présidente de la Commission européenne fait carrément la une de Die Welt. Le journal reprend les mots d'Ursula von der Leyen parlant d'un Kraftpaket, donc d'un paquet de poids pour l'avenir. Et il se demande aussi qu'est-ce qui va changer pour les frontaliers et les étudiants avec quelques éléments de réponse.
Et puis certains médias français reviennent aussi sur cet accord.
Oui, un accord historique face au mur des référendums. Voilà comment Le Point voit la situation. Après 10 ans de négociations, le plus dur commence, convaincre les citoyens helvétiques de le ratifier. Le journal souligne aussi que l'accord garantit la libre circulation des personnes et l'égalité de traitement des citoyens européens en Suisse. Les étudiants continueront de bénéficier des mêmes conditions d'accès aux universités suisses que les étudiants suisses. Le Nouvel Observateur lui parle d'un accord bon et avantageux pour les deux partenaires. Mais attention, ce sont en fait les propos de Viola Merz. Et là aussi, le journal ajoute que le chemin vers une éventuelle adoption définitive par le Parlement et les électeurs helvétiques sera long et semé d'embûches.
Mais Sandra, il faut dire, certains médias semblent aussi faire l'impasse sur cet accord.
Il n'y a aucune trace de l'accord dans Le Monde. Le dernier gros titre du journal sur ce dossier, c'est « La Suisse claque la porte des négociations avec l'Union européenne ». C'était donc en mai 2021. D'ailleurs, et ce n'est pas inintéressant à relever, ce moment-là, donc, le clash entre Berne et Bruxelles, tout le monde en parle, Guardian et New York Times compris, alors que là, rien, le dernier gros dossier sur Switzerland, la victoire des mamies du climat à la Cour européenne des droits de l'homme, c'était donc en avril dernier.
Revue de presse européenne avec vous Sandra Zimmerli, merci. Le pape François a condamné ce matin la cruauté d'une frappe aérienne israélienne après la mort de 7 enfants d'une même famille palestinienne à Gaza. Hier, des enfants ont été bombardés, c'est de la cruauté, ce n'est pas la guerre, voilà ce qu'a notamment dit le souverain pontife. C'était devant des membres du gouvernement du Saint-Siège. On a soif, on a faim, l'impatience des habitants de Mayotte alors que l'aide arrive au compte-gouttes. Une semaine après le passage du cyclone Chido, l'archipel est toujours plongé dans le chaos. Et si aucun Suisse ne figure parmi les victimes, plusieurs de nos compatriotes se trouvaient sur place au moment de la catastrophe. Loïc Delacour a pu en contacter, il nous raconte leur expérience et les difficultés pour quitter l'île.
Florine, une gynécologue vaudoise, finissait son internat de 3 mois à l'hôpital de Mayotte. Elle a été très surprise par la violence du cyclone, alors qu'on lui annonçait sur place un orage.
C'est recroquevillé au rez-de-chaussée, loin des fenêtres, sur le canapé, en se demandant à quel moment aller lâcher pour de bon. Une partie de notre maison s'est écroulée avec un balcon qui laisse l'appartement partiellement ouvert, donc ce qui aussi ne nous rassure pas quant à l'insécurité.
C'est après sa dernière garde de 24 heures qu'elle nous parle. Hier, elle attendait désespérément un avion, sans l'aide du département fédéral de l'extérieur.
Je dois dire que j'étais très surprise. Je pensais qu'une catastrophe naturelle était un motif de rapatriement de compatriotes suisses. Mais on m'a dit de m'en remettre à mon employeur, qui, comme vous pouvez vous l'imaginer, a un peu d'autres choses à faire. Et à ma compagnie de voyage.
Contacté, le DFAE déclare que la crise à Mayotte relève de la compétence des autorités françaises. Mais il dit être en contact avec elle afin d'examiner les options de départ pour les ressortissants suisses. Natalia, une autre Suissesse, a réussi à prendre un avion pour la Réunion. C'est depuis là-bas qu'elle nous décrit la situation à Mayotte.
Les problèmes, c'est aussi au niveau sécuritaire. Moi, je me suis retrouvée pendant 5 jours avec mon couteau de plongée attaché à la jambe pour essayer de me défendre. Les pillages ont commencé tout de suite. Et les gens, évidemment, ils sont pauvres, ils ont faim, ils ont soif. Donc, tu sors dans la rue, il y a les gens en machette. Le danger vient absolument de toutes parts, sanitaire, sécuritaire, clairement c'est l'apocalypse. J'ai jamais vu, c'est inimaginable. Et c'est désespérant que délire les news alors que dans la réalité, il n'y a littéralement aucun type d'aide qui est arrivé à la population.
Le DFAE, mais aussi des ONG suisses sont en stand-by, la France n'ayant pas demandé une aide internationale. Médecins sans frontières disait hier évaluer les besoins et se tenir prête à apporter une aide d'urgence.
Le sujet signé Loïc Delacour. Aux États-Unis, le redouté shutdown de Noël a été évité de justesse. Le Congrès a adopté une loi qui assure le financement de l'État fédéral jusqu'à mi-mars. De quoi éviter une paralysie budgétaire qui aurait signifié le chômage technique pour des centaines de milliers de fonctionnaires, le gel d'aide sociale ou encore la fermeture de certaines crèches. On passe à présent au point J qui se demande aujourd'hui comment se faire une petite fortune ou autrement dit comment économiser alors que le pouvoir d'achat des Suisses n'a cessé de baisser ces deux dernières années.
Salut, c'est Joël. Vous aussi, vous avez l'impression que tout coûte cher. Les factures d'électricité, les primes d'assurance maladie, le logement. Eh ben, breaking news, c'est pas qu'une impression. Ces deux dernières années, le pouvoir d'achat en Suisse n'a fait que baisser. Alors oui, les salaires ont augmenté un petit peu, mais ça a été contrecarré par l'inflation et la hausse des prix du gaz, de l'électricité et des loyers notamment. En d'autres termes, la géopolitique est venue mettre le foin dans nos comptes. Et pour peu que les gènes de la gestion raisonnée des finances aient sauté votre génération, vous avez peut-être l'impression que l'argent vous file entre les doigts. Alors je me suis demandé si dans ce contexte tendu, il existait quand même une chance d'économiser un petit peu. Osons même aller plus loin, comment peut-on se créer une petite fortune ?
Le point J.
Et dans cet épisode, c'est deux femmes qui vont vous parler d'argent. Il y a d'abord Janice Kirschbaumer.
Quand j'ai commencé vraiment à prendre soin de mon budget, je voulais m'acheter un collier Cartier qui était autour des 1100 francs.
Janice qui est créatrice de contenu dans la finance personnelle.
Donc j'ai mis en place sur Revolut, c'était à chaque fois qu'on paye, il y a de l'argent qui se met de côté sur une cagnotte. Et en fait, quand je suis arrivée aux 1100 francs, ça faisait peut-être 4 mois, un truc comme ça, parce que j'avais fait en sorte que ce soit beaucoup. Bah, en fait, je me suis dit tout simplement... Pourquoi est-ce que tu vas dépenser cet argent dans un collier ? Donc, j'ai jamais acheté le collier, mais par contre, ça a été vraiment le début pour moi de cette épargne que j'avais pas du tout.
Et en fin d'épisode, elle nous partagera sa méthode pour économiser et gérer son budget. Mais d'abord, on va discuter avec Judith Grana, membre de la direction des retraites populaires. C'est elle qui gère toutes les conseillères et conseillers que vous pourriez avoir au téléphone si vous appelez l'entreprise. Judith Grana, quand on n'a pas la chance de venir d'une famille fortunée, de recevoir un héritage ou qui sait même de gagner au loto, est-ce que c'est possible quand même de se créer une petite fortune ?
Alors, fortune est un mot assez large et définissable. Disons que pour avoir de l'épargne, c'est un travail de longue haleine. Oui, c'est possible, mais c'est plus dur dans certaines situations que dans d'autres.
Quels sont les freins, justement, à la création de richesses et puis peut-être au fait de faire fructifier l'épargne qu'on se crée ?
Je pense qu'il y a plusieurs freins. D'abord, on peut dire qu'il y a la surconsommation qui fait qu'on ne se rend pas compte de l'argent qu'on dépense. Deuxièmement, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à économiser parce qu'elles ne font pas de budget. Elles n'ont pas de vision claire de ce qu'elles touche et si cet argent suffit par rapport à couvrir leurs dépenses. Troisièmement, on peut noter aussi l'endettement. L'endettement peut être rapidement une spirale négative pour la non-création de richesses. Et puis quatrièmement, il y a aussi certaines personnes qui auraient le droit à du soutien de la part d'associations ou étatiques et qui ne sont pas informées qu'elles ont ce droit ou qui ont peut-être honte d'aller demander.
Il y a plein de mots qui peuvent être un petit peu des mots barrières, prévoyance, taux d'intérêt, hypothèque, avec chaque fois plein de connaissances derrière qu'on n'a pas toujours. Par quoi est-ce qu'on commence ?
Alors la toute première étape, c'est de faire son budget. Ça veut dire lister tous ses revenus et lister toutes ses dépenses, que ce soit le loyer, l'alimentation, les impôts, la voiture, les assurances, tout. On met tout dans un tableau, il y a plein de solutions sur Internet dans lesquelles on peut rentrer ces chiffres, ça nous fait un calcul. Et puis là, on voit, on analyse qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, et puis éventuellement, s'il y a des adaptations à faire. Adaptation veut dire quoi ? Veut dire on dépense moins ou on gagne plus. Et comment gagner plus ? Ben, éventuellement, on change de travail, on augmente son taux d'activité. Voilà, c'est des pistes de réflexion, mais il faut travailler sur les deux tableaux.
Le budget des ménages est composé de dépenses dites obligatoires et de dépenses de consommation. Dans les dépenses obligatoires, on a par exemple les impôts, les cotisations sociales, premier, deuxième pilier, et les assurances maladie. Judith Grana a une règle assez simple pour délimiter les différentes catégories.
On parle de la règle des 50-30-20. Donc 50%, c'est les dépenses vraiment de base. Tout ce qui est incompressible, le loyer, l'assurance, les impôts, l'alimentation, enfin voilà, tout ce qui est obligatoire pour vivre décemment. Après, les 30%, c'est toutes les dépenses liées à ses propres plaisirs, son propre loisir. Les vacances, les hobbies, les restaurants, etc. Et puis, les autres 20%, c'est ce qu'on est censé épargner. Voilà. Donc, je pense que cette règle, qui est hyper simple, 50, 30, 20, me paraît un bon indicateur quand on va faire son budget de regarder est-ce que mes revenus et mes dépenses sont alignés avec cette règle.
Judith Grana, si on se penche d'abord sur ces dépenses dites obligatoires, elles sont obligatoires, mais est-ce qu'on a malgré tout là quand même une marge de manœuvre en commençant peut-être par les impôts ?
Alors les impôts, là c'est vrai qu'il n'y a pas de grosse marge de manœuvre. Ce que je peux juste recommander, c'est de payer les impôts en acompte et de faire un virement mensuel. Ça vous évite d'avoir un gros bloc d'impôts à payer à la fin de l'année et de vous retrouver devant une situation où vous avez eu une urgence et vous avez dû utiliser cet argent pour autre chose. Il y a en effet un intérêt sur ces montants non payés à temps qui peut être assez important.
Certains d'entre nous ont peut-être un, voire même plusieurs troisièmes piliers. A priori, c'est de l'argent qui est prévu pour notre retraite, mais est-ce que c'est aussi une manière d'épargner ?
Absolument. Les polices de troisième pilier sont de l'épargne, clairement. Ça amène aussi un avantage fiscal, puisque ces montants sont déductibles fiscalement de votre revenu imposable, donc c'est très très intéressant. C'est aussi, comme vous le dites, aussi intéressant de réfléchir à en avoir plusieurs, puisque vous pouvez à ce moment-là réfléchir d'avoir un compte 3A tout à fait basique, et puis un autre où vous vous dites, bah là, je vais investir peut-être lié à des fonds, donc vous prenez aussi peut-être des risques si vous le voulez, si vous avez un certain appétit au risque. Mais ça vaut la peine de réfléchir à avoir une vraie stratégie et puis un compte un petit peu plus agressif au niveau de l'investissement et puis un autre plutôt défensif.
Peut-être dernière question sur les dépenses obligatoires, les assurances maladie, toujours plus chères. Comment est-ce que là, on peut tirer son épingle du jeu ?
Alors, c'est vrai que la caisse maladie, il y a plusieurs tableaux sur lesquels on peut faire des économies. D'abord, on peut revoir sa franchise, regarder quelles sont nos dépenses médicales et réfléchir quelle est la franchise la plus adéquate pour l'année d'après, sachant que cette franchise, elle peut être adaptée d'année en année. Deuxièmement, on peut réfléchir sur différents modèles d'assurance. On parle du modèle HMO, donc qui est dans un regroupement de cabinets, ou le modèle médecin de famille, ou le modèle lié à une consultation téléphonique. Ces différents modèles permettent de faire des économies et donc de générer aussi de l'épargne. Et puis, dernier point, vous l'avez évoqué, les subsides. Selon vos revenus, le canton soutient les ménages avec une aide qui s'appelle subside pour payer les factures de caisse maladie.
Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round.
À la fin du mois dernier, le magazine Bilan a publié sa traditionnelle liste des 300 plus grosses fortunes de Suisse. En tête, comme l'année dernière, c'est le propriétaire de la marque Chanel, avec une richesse estimée à 37 milliards de francs. D'ailleurs, il n'y a jamais eu autant de riches dans le monde, et ça, c'est notamment grâce au cours de la bourse. Ce qui m'amène à ma question suivante.
Imaginons à ce stade qu'on a réussi à mettre un peu d'argent de côté. Où est-ce qu'on le place ?
Avant même de placer, je dirais, il faut savoir quel est l'objectif de cette épargne. Tout d'abord, il y a un objectif à court terme qui est de mettre quelques sous de côté pour l'urgence. On parle à peu près de 3 mois de salaire. On perd son travail, le temps que le chômage nous verse une allocation, se fait opérer des dents, enfin voilà, une vraie urgence, tout de suite on a besoin de liquidité. Deuxièmement, se dire, mais c'est quoi mes objectifs d'épargne à moyen terme ? Est-ce que je sais que dans 5 ans, je vais avoir une échéance ? Est-ce que je sais que dans X années, j'ai envie de regarder pour un bien immobilier ? Dans ce cas, on va plutôt placer cet argent sur des comptes qui ramènent un intérêt, mais qui ne vont pas être trop liés au marché. Parce que si on se retrouve dans une baisse de marché financier au moment où on a besoin de cet argent, on risque d'être prédérité. Et troisièmement, de réfléchir aux objectifs à long terme, comme par exemple la prévoyance, qui est un réel objectif à long terme. On parle d'un objectif à 30, 25 ans. Et donc là, ben, on a des solutions, comme on l'a déjà évoqué, de compte ou de police d'assurance 3A. Mais il y a aussi d'autres solutions quand les montants d'épargne qu'on a vont au-dessus de ces 3A. On peut réfléchir aussi à ce moment-là à investir sur les marchés financiers. Par contre, pour faire ça soi-même, c'est vrai qu'il faut des connaissances relativement poussées. Donc si on n'a pas ces connaissances, il vaut mieux aller voir des personnes dont c'est le métier.
Merci beaucoup Judith Granin.
Merci à vous pour l'entretien.
Dans cet épisode, on a beaucoup parlé des dépenses obligatoires et moins des dépenses de consommation. Alors que dans cette catégorie-là, les choix et les questions qu'on se pose sont infinis. Quel logement choisir ? Transport public ou voiture ? Contracter un leasing ? Est-ce que c'est vraiment raisonnable ? Et pourquoi pas acheter prioritairement en deuxième main ? Et est-ce qu'il ne faudrait pas se faire un sandwich au lieu de manger tous les jours à la cantine ? Bref, s'il y a une personne qui a passé toutes ces questions à chaque ligne de son budget au crible, c'est Janice Kirschbaumer, qui nous parlait tout à l'heure du fameux collier Cartier.
On vient souvent vers moi en me disant « Comment est-ce que je peux avoir plus d'argent de côté ?» Et j'adore cette question parce que c'est vraiment pas très compliqué. La première chose, c'est que il faut vraiment comprendre qu'avant de vouloir plus d'argent, parce qu'on a tendance à se dire « Ah, il faut que je sois augmenté, il faut que je gagne plus, il faut que je gagne mieux, etc. » Eh bien, on peut tout simplement faire en sorte de mieux gérer ce qu'on a.
Janice, elle a 29 ans, elle habite en Valais, elle est créatrice de contenu en finances personnelles et elle a aussi créé sa propre entreprise et sa méthode « Coach ton budget ».
Ce n'est pas une histoire de vouloir devenir propriétaire ou voir un grand voyage ou voilà, enfin, réunir beaucoup, beaucoup d'argent. En fait, je travaille toujours avec 3 objectifs. Il y a un tout petit objectif, il y a un moyen et il y a un grand. Et ensuite, c'est très, très important d'apprendre à suivre parce que c'est là où les gens se démotivent. Ils apprennent à faire un budget, ils voient comment est-ce que ça fonctionne et puis ils arrêtent de le faire au bout d'un moment. Sauf que si, en fait, on arrive à trouver des petits morceaux de carottes qui font que les gens, ils avancent et ils continuent de suivre, c'est parce qu'il y a des bons objectifs, c'est parce qu'on a envie de le faire, c'est parce qu'on s'intéresse vraiment à nos chiffres. Et la dernière partie, je dirais que c'est vraiment optimiser son budget. Et là, ça passe par analyser toutes les catégories. Ça va des courses aux assurances, en passant peut-être par les vêtements, par les restaurants, par les sorties. On va analyser toutes les catégories et voir où est-ce qu'on peut aller chercher des économies. Parce qu'on a souvent tendance, en fait, à trop consommer. On a, par exemple, des abos complètement inutiles. On s'achète des vêtements en trop alors qu'on en a déjà assez. On se fait tout le temps plaisir, en fait, parce que c'est aussi comme ça que la société est maintenant. On a des pubs à foison sur les réseaux sociaux pour dépenser de l'argent. On a tout le temps envie d'aller faire du shopping. On a tout le temps envie de dépenser, dépenser, dépenser. Et en fait, c'est vraiment cette frénésie-là qu'il faut réussir à calmer et analyser le budget dans sa globalité, en fait.
Merci beaucoup, Janice, et merci à vous toutes et tous pour votre écoute. Est-ce que cet épisode vous a donné envie de mettre le nez dans vos finances ? Pas facile à la veille de Noël, mais n'hésitez pas à nous écrire pour partager vos impressions. Et d'ici là, tout bon, à bientôt.
Le Point J épisode signé Joël Cachin. Mais météo pour aujourd'hui, nuageux mais généralement sec au nord des Alpes. Développement d'éclaircies autour du Léman et dans les Préalpes. En vallée, assez ensoleillé avec des voiles d'altitude parfois étendues, surtout cet après-midi. En soirée, augmentation de la nébulosité à partir du nord-ouest. Les précipitations s'étendront à toutes les régions. Température maximum 5 degrés. Demain, couvert avec des précipitations intermittentes en pleine. Elles seront continues et souvent abondantes en montagne. Limite plus neige entre 1500 et 1800 mètres le matin. Elle s'abaissera vers 700 mètres l'après-midi.
Avec la RTS, célébrons la musique classique. Quatre amoureux s'égarent, des fées se querellent, un lutin s'amuse. Avec le songe d'une nuit d'été, Benjamin Britten compose l'une des plus belles pièces du XXe siècle. Du 22 au 31 décembre, et pour la première fois à l'Opéra de Lausanne, découvrez cet opéra exquis d'après Shakespeare, mis en scène par Laurent Pelly. Retrouvez les plus grands chefs-d'œuvre joués en Suisse romande dans À l'Opéra, le samedi, dès 19h30 sur RTS Espace 2 et en tout temps sur l'application PRTS.
Tournée romande, Antonin Scherrer.
Vous aimez la musique vivante? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Une dizaine d'extraits de concerts enregistrés dans toute la Suisse romande par les micros d'Espace 2, c'est ce qu'on vous propose tous les après-midi en compagnie de Luc Thérapon. Avec au menu du jour un concerto pour deux violons d'Arvo Pärt, le sixième trio avec piano de Beethoven, la cantate Ariane Anaxos de Haydn par Marie-Claude Chapuis et les Giardino Armonico, les variations sérieuses de Mendelssohn sous les doigts d'Igor Tchetouef, le troisième concerto pour clavecin en ré majeur de Jean-Sébastien Bach et enfin la célèbre sonate de Franck sous l'archet de Lia Petrova et les doigts d'Adam Laloum. On commence donc avec une page de musique de notre temps. Il s'agit de Tabula Rasa d'Arvo Pärt, un concerto pour deux violons, orchestre à cordes et piano préparé, proposé le 15 septembre 2021 à la Salle Métropole par Renaud Capuçon, François Sechard et leurs collègues de l'Orchestre de Chambre de Lausanne. Il s'agit d'une pièce fondatrice dans l'œuvre du musicien estonien qui voit en cette année 1977, son passage du vocabulaire sériel au mouvement minimaliste associé chez lui au style dit tintinnabuli. Ce concerto est fortement associé à la personnalité de son créateur et dédicataire, le violoniste letton, balte donc comme lui, Gidon Kremer, qui la donne en première audition à Tallinn. La musique de Pärt est alors, guerre froide oblige, peu connue en Occident. La rencontre avec le célèbre producteur Manfred Eicher du label ECM, qui découvre sa musique en écoutant Radio Yerevan, va la faire passer d'un coup de l'ombre à la lumière à la faveur d'un album publié en 1984, comprenant justement Tabula Rasa, mais aussi deux versions du fameux Fratres, des œuvres qui vont rapidement séduire non seulement le public et les interprètes, mais également le cinéma. Deux mouvements. Ludus, jeu, noté con moto, et presque à l'opposé, silentium, silence, senza moto, sans mouvement.
Thank you.
Tabula Rasa, l'une des œuvres cultes du minimaliste estonien Arvo Pärt, concerto pour deux violons, orchestre à